Merci beaucoup. Je peux vous dire que de mon côté, j'avoue que je suis heureuse aussi de revenir à Annecy. Ça m'est arrivé de temps en temps. Heureuse de voir un peu les communautés d'Annecy, enfin des personnes, des communautés d'Annecy, parce que je suis toujours un peu touchée de ce qui se passe, du dialogue, voilà, tel qu'il est, vrai, et en même temps qui existe entre les différentes communautés. Voilà, si j'ai réagi, c'est tout simplement parce que pendant 16 ans, j'ai eu comme ministère premier d'être bibliste et que maintenant je suis aumônier d'hôpital. C'est pour ça, ça change un tout petit peu. L'Apocalypse comme écrit de résistance. J'étais ravie quand Eliane m'a proposé cela, parce que c'est un livre que j'ai découvert déjà il y a un petit moment, mais plus cela va, plus je trouve que c'est un livre extraordinairement actuel, justement. Et justement dans le sens d'une résistance heureuse et active. Et puis quand je me suis mise à travailler, ça a été pour moi terrible, parce que c'est un livre en fait qui est tellement riche que, voilà, je vais essayer de ne pas vous embrouiller par rapport à ce livre de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, donc, et pour les chrétiens, livre qui clôt l'ensemble des textes bibliques. Donc je démarrerai en lisant ce que vous avez sur la feuille qui est en train de circuler. Alors je reconnais que j'en ai fait 40 exemplaires. J'ai sous-estimé largement. Donc vous allez être obligé de partager un peu. Si vous avez le code et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Oui, non, je ne te l'ai pas dit, je ne te l'ai pas dit.
Ça va.
Ah ben, ça va. Les couples, heureusement qu'il y a des couples. Donc, je voulais vous commencer par lire la citation, l'extrait d'un livre qui a été réédité, et pourtant il est assez récent, de 2000, enfin oui, non, maintenant 2003, non, il n'est pas si récent que ça, qui s'appelle « Présence d'Évangile », écrit par Christophe Théobald, qui est un jésuite, effectivement, théologien, professeur à Sèvres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a été demandé dans les années 2000 par l'Église en Algérie. Vous savez que l'Algérie elle-même a été traumatisée par la guerre civile qui a eu lieu, et c'est clair que les chrétiens qui étaient déjà ultra minoritaires, il ne reste vraiment que des religieux ou vraiment des hommes d'affaires qui ont eu peau de chagrin. Et du coup, l'Église catholique de là-bas se posait la question, mais quel est le sens de notre présence ? Voilà, comment peut-on aider ce pays dans lequel nous vivons, qui est tellement meurtri, que faire ? Et du coup, ils ont demandé à Christophe Théobald de venir 2 années de suite, pour une session, et Christophe Théobald a choisi de lire l'Apocalypse avec eux. Donc vous voyez déjà ça, c'est pas anodin. Donc je vous lis cet extrait. Étant créé à l'image de Dieu, le grand enjeu de l'expérience spirituelle comme expérience d'humanité est de nous laisser identifier au Fils de l'homme. Comment ? En laissant convertir tous nos sens, les cinq sens. C'est ce qui nous permettra de sortir de la désorientation. Laissez convertir le voir, l'image, je rajoute toujours, menacée par l'idolâtrie. L'image qui peut devenir une sorte de miroir où nous nous adorons nous-mêmes. L'image peut aussi produire la peur. Dans Apocalypse 9, les images de sauterelles ou les films d'horreur réalisés pour faire peur. Laissez convertir l'entendre et notre voix. Qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce le bruit, le tonnerre, la colère, les catastrophes ? Ou le léger coup de celui qui frappe à la porte ? Celui qui frappe à la porte, c'est une citation de l'Apocalypse. C'est de nouveau l'alternance entre la peur et le bonheur. La peur des catastrophes et d'un rapt, comme si Dieu venait nous enlever à nous-mêmes, ou le bonheur, parce que c'est l'époux qui frappe. Qu'est-ce que l'on entend ? La voix de Dieu ? Laissez convertir le toucher et la main. Convertir la main. Est-ce la main pour l'épée ou la main qui tient le livre ? Ou encore la main de l'ancien, mise sur l'épaule du prophète, cette main rassurante qui console. On peut faire beaucoup de choses avec ses mains. Laissez convertir le goût du miel. Où est le goût de la vie ? Pas de mièvrerie. Il n'y a pas de goût de miel sans amertume. Je ne peux pas goûter le miel sans éprouver l'amertume que d'autres ne le goûtent pas. L'expérience de désorientation est essentielle. Nous perdons pied pour entrer dans la conversion de nos sens. Les mystiques nous le disent. C'est alors que nous pouvons recevoir du Fils de l'homme la carte du chemin. Les évangiles présentent l'expérience spirituelle comme une rencontre et ils indiquent bien que ce qui empêche la rencontre, c'est notre imaginaire. Il faut donc laisser convertir nos images, celles de Dieu, celles des autres, l'image de moi-même et celle que je me fais de la société. C'est exactement ce que nous propose l'Apocalypse. Voilà, ça c'était comme entrer en matière. C'est un texte qui est assez dense, oui, donc vous pouvez y revenir après. Quelques mots sur le contexte du livre de l'Apocalypse de Jean. Donc, l'époque de rédaction est entre 90-96, certains le mettent un peu plus tard. C'est une époque qui est pas une époque de persécution, pas du tout, enfin pas du tout, très peu, mais elle est marquée par l'hégémonie progressive, depuis Auguste, César, etc., du culte impérial, là imposé par Domitien, c'est lui qui est empereur. Vous voyez sans doute l'Empire romain qui fait le pourtour de la Méditerranée. Donc avec des cultures très différentes, des éloignements énormes, et donc pour consolider cet empire, vous avez à la fois le droit romain, que l'on connaît, mais voilà, pour donner quelque chose de, comment dire, de mystique, de religieux, comme ciment à cet empire, le culte impérial va de plus en plus prendre de place. Et donc, mais je le redirai, pour les chrétiens, cela va devenir vraiment une difficulté très concrète dans le quotidien de la vie. Et puis, si ce n'est pas une période de persécution, il y a le souvenir des persécutions. En particulier, Néron, vous le connaissez, empereur fou, on le connaît entre autres parce que, bon, on sait bien que c'est possible, hein, vu ce qu'on a vécu, mais c'est par exemple, il s'est amusé à éclairer la voie appienne par un nombre, je ne sais pas le nombre exact, hein, de crucifiés qu'il a fait flamber vivants. Donc vous voyez que faut quand même avoir une notion de l'humain terrible et du pouvoir sur les autres. Ce qu'on peut dire aussi pour les premières communautés chrétiennes, c'est qu'à ce moment-là, la rupture avec le judaïsme est consommée. Et donc à l'intérieur de l'Empire romain, les chrétiens ne peuvent plus s'adosser sur le droit particulier, ou du moins l'exception qui était faite pour la religion juive. Et donc il n'y a plus d'espace naturel, social, dans la vie quotidienne, pour exprimer, vivre sa foi de chrétien. Or, comment concilier le fait de croire que Jésus, reconnu par les chrétiens comme Messie, ayant accompli les promesses, comment concilier que cela ne change rien, radicalement rien, dans la vie sociale, politique de tous les jours? Et en plus, il faut quand même s'en souvenir, confesser un crucifié est quelque chose de l'ordre, Paul le dira, hein, de la sottise pour beaucoup de gens, du blasphème, parce que comment Dieu peut-il s'associer à quelqu'un qui est ainsi défiguré et humilié? Donc la place n'est pas simple, et d'autant plus que je reviendrai à cette place, mais j'aimerais simplement reprendre l'hégémonie progressive du culte impérial. Le premier point que je vous donnais font qu'on a de plus en plus un discours qui est un discours, je ne fais pas de comparaison avec aujourd'hui, qui devient de plus en plus un discours de propagande, c'est-à-dire en partie mensonger, quelque chose qui est là pour construire une idéologie et non plus dire la réalité des choses. Et face à la force de ce discours, le prophète sent que ses paroles ne suffisent plus à soutenir l'espérance. Vous avez eu des conférences sur l'Apocalypse, mais simplement j'aimerais indiquer à nouveau, l'enjeu change. Il ne s'agit plus simplement d'un simple appel à la conversion personnelle, hein, qui pourrait retourner l'ordre des choses. Parce que le combat est bien au-delà. Il est bien au-delà de ce que font les justes. Tout semble leur échapper. Et le dessein de Dieu n'est absolument plus visible. À ce moment-là, il faut une révélation, et une révélation, c'était dans le texte de Théobald, une révélation qui prenne l'être tout entier, dans son existence tout entière, et non seulement dans sa foi ou dans sa pensée, et le langage va donc changer. Il va devenir symbolique pour exprimer à la fois la violence des événements qui touche l'être tout entier, la création tout entière elle-même, mais langage symbolique aussi, et ça c'est symbolique dans le sens apprendre à regarder les événements avec leur véritable poids. Je fais ici juste une petite parenthèse. Révélation, c'est pas anodin. Si vous avez fait de la photo argentique, vu nos âges, on est peut-être plusieurs à en avoir fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez que sur les négatifs, avant de passer dans le bain de la révélation, vous aviez les images, mais avec une perspective inversée. C'est-à-dire tout ce qui était du premier plan, en fait, apparaissait en dernier plan, en arrière-fond, et tout ce qui était de l'arrière-fond apparaissait en premier plan. Et puis quand vous trempliez votre pellicule dans le bain qui s'appelait justement le révélateur, et que vous le ressortiez, à ce moment-là, on avait la bonne perspective. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le langage apocalyptique, et puis j'entrerai dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais je voulais simplement... Au moment où on risque d'être fasciné par ce langage de l'Empire, ce langage idéologique, fasciné par le pouvoir, redécouvrir au travers de la révélation ce qui est véritablement au premier plan et ce qui supporte l'histoire du monde, c'est ça l'enjeu de l'Apocalypse de Saint Jean. Et l'Apocalypse va vous mettre en mouvement des dragons, des bêtes terrifiantes qui occupent le premier champ. Des paroles d'une haine et d'un mépris de l'humain qui crèvent les oreilles. Mais l'Apocalypse va essayer de remettre en avant ce qui pour lui est au premier plan, à savoir l'agneau comme immolé. Donc vous voyez que face à des bêtes terrifiantes, un agneau n'a pas beaucoup de chance de transformer les choses, et pourtant l'Apocalypse va être cette révélation de la fragilité d'un Dieu qui accompagne l'homme par rapport à ses puissances. C'est cette fragilité-là qui porte l'avenir du monde. Voilà. Ça va être ce changement-là. Et d'ailleurs, la première phrase de l'Apocalypse, hein, révélation de Jésus-Christ, donc révélé en grec, c'est soulever les voiles, vous pouvez l'entendre de deux manières, le génitif. Révélation faite par Jésus-Christ, mais vraisemblablement, vous pouvez l'entendre, révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'auteur va reprendre au travers de son livre ce qu'il a vu, ce que les premiers chrétiens ont vu dans la vie historique, les paroles de Jésus-Christ. Et donc ils vont retraverser tout cela au travers de ce livre. Alors, peut-être la première chose à dire, c'est que ce livre va s'ouvrir sur, si vous lisez le premier chapitre, on n'a pas le temps de le lire en entier, c'est très étonnant. Vous commencez par une parole brute, ce que je vous disais là, révélation de Jésus-Christ. On ne vous dit même pas qui parle, de quoi, enfin. On vous met devant une parole vive. Et puis vous allez ensuite avoir quelque chose qui ressemble à une lettre. Et puis tout d'un coup, on passe à un hymne. Et puis tout d'un coup, on reprend les prophéties. Et puis tout d'un coup, un style déclaratoire. Bref, vous traversez quantité de styles littéraires différents dans les premières lignes de l'Apocalypse. Sans doute parce que le grand enjeu, et il est donné au chapitre 2 seulement, la clé est donnée dans les sept lettres aux communautés d'Asie. La clé, c'est de voir comment est évoqué l'état de ces différentes communautés chrétiennes. Il y a celles qui se battent avec une énergie extraordinaire contre le système de l'Empire romain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les lettres vont mettre le doigt sur le fait qu'à force de se battre contre, tu as perdu, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est-à-dire que les communautés se mettent à ressembler à ce qu'elles combattent, à prendre cette même dureté, cette même violence, cette même... et à oublier ce qui fait leur cœur même. Donc déjà ça, c'est intéressant pour ouvrage de résistance, enfin, écrit de résistance, percevoir que la résistance, ce n'est pas simplement s'opposer à. Sinon, on vide sa propre identité et sa propre substance. Et puis vous avez ceux qui partent, comment dire, je vais peut-être prendre mes notes, qui essayent d'aménager la réalité, de la fuir en donnant des interprétations particulières de la foi, qui sont bien souvent plus que mystiques, gnostiques, c'est-à-dire qui sont sur des systèmes. Et d'ailleurs, on a du mal à retrouver vraiment, on nous parle de la doctrine de Balaam, la prophétesse Jézabel, etc. On ne sait pas exactement ce que ça signifiait, mais un système de connaissances qui fait que petit à petit, je connais un monde, et c'est lui qui va me sauver, qui fait ma force, un monde qui me permet de me dégager de la réalité de ce monde dans lequel je suis. Et là aussi, les lettres vont venir pointer cela. Et puis il y a ceux qui essayent de tenir le coup, mais comme la flamme qui vacille hein, dans Ésaïe, qui finissent par faiblir. Et on sent que les lettres viennent là les conforter, les remettre debout. Bref, la question de l'Apocalypse, c'est quelle place? Quelle place le chrétien peut-il avoir, non seulement de façon individuelle, pour sa propre foi, mais dans l'histoire politique, sociale de l'époque, alors que les communautés semblent peser pour rien sur l'avenir de l'Empire. Donc l'enjeu va être celui-là, et vont suivre ces sept lettres. Alors, excusez-moi, je voulais quand même vous dire, vous voyez, ça c'est parce que je ne me suis toujours pas résolue au choix vraiment que j'avais fait pour vous parler de l'Apocalypse. Je voulais quand même vous dire deux points sur le premier chapitre, parce que ça me paraît important. Le danger de ces communautés, c'était ça que je voulais dire aussi, c'est l'oubli, c'est-à-dire d'être complètement focalisé par ce qu'ils vivent au temps présent. Ne plus pouvoir irriguer le temps présent par tout ce qu'ils savent de Dieu. Le souvenir au sens fort, souviens-toi. Et ne plus irriguer le présent des promesses que pourtant les chrétiens avaient vu en œuvre dans la personne même de Jésus, ces promesses qui viennent donner une perspective pour l'histoire du monde. Et d'emblée, Dieu va être nommé d'une manière personnellement que je trouve magnifique, celui qui est. Donc la question est bien celle du présent, celui qui était. Et le troisième terme, c'est pas celui qui sera, c'est celui qui vient. Donc vous voyez, c'est bien le présent qui est au cœur du livre. Mais il va être éclairé par une reprise du passé, et en particulier de la Bible hébraïque. Alors c'est impressionnant, vous retirez toutes les citations, vous n'avez plus grand-chose de l'Apocalypse. Et éclairé par ce Dieu qui vient. Et dont la figure du Christ, pour les chrétiens, a éclairé de façon définitive la promesse. Donc celui qui est, qui était et qui vient. Et la personne même de... Enfin, simplement, je dirais ça aussi, vraisemblablement, c'est un magnifique commentaire, en fait, du nom d'Exode 3, de la révélation à Moïse. Et deuxième point, quand on est évoqué Jésus le Christ, en fait, le qualificatif qui lui est donné, et c'est intéressant, c'est le témoin fidèle. C'est-à-dire celui qui, fondamentalement, témoigne de la vérité de Dieu. Le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Et vous voyez qu'on est immédiatement dans cette opposition, le prince des rois de la terre, alors que, vraiment, les communautés n'ont aucun pouvoir sur la vie courante dans l'Empire. Et immédiatement après l'arrivée de celui qui est, qui était et qui vient, de Jésus-Christ comme le témoin fidèle, vous avez cet hymne extraordinaire à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, et entendez bien le péché comme de nos hypocrisies, ce qui n'est pas unifié, qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Alors ça, c'est l'évocation d'Exode, c'est-à-dire il y a une place qui est celle de la prêtrise, c'est-à-dire de la réconciliation du monde avec Dieu lui-même, si je veux faire court. Voilà comment s'ouvre le livre de l'Apocalypse. Puis donc il y a les sept lettres, et ensuite vous allez avoir trois septenaires. Le premier septenaire étant les sept sceaux du livre, ensuite les sept trompettes et les sept coupes. Mais d'où viennent ces trois septenaires? Et ça, c'est très intéressant. Ils viennent au préalable d'une liturgie céleste. Le voyant va voir une porte ouverte dans le ciel, et les premiers chapitres 4, 5 de la Révélation, donc à proprement parler, vont être une liturgie céleste autour du trône qui va reprendre toute la Genèse. Et puis, dans cette liturgie céleste, il va y avoir une amplification toujours plus grande, une humanité toujours plus grande, comme si on survolait toute l'histoire, ou retraversait plus exactement toute l'histoire, et arrive le fait que le voyant voit assis sur le trône, celui qui n'est jamais décrit, mais il y a un livre qui est là. Et ce livre est saturé, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, mais il est clos, fermé. Donc on peut dire beaucoup de choses de ce livre, il y a eu beaucoup de commentaires, je ne rentrerai pas plus en détail, si ce n'est que il est fermé. Comme si le sens ultime de l'histoire échappait. On sait qu'il y en a, on sait que quelque part on doit pouvoir saisir ce qui se passe et les contradictions dans lesquelles on vit, mais cela échappe. Et on commence par le désespoir de celui qui voit cela et qui se désespère de ce que personne ne puisse ouvrir ce livre. Et c'est à ce moment-là qu'il voit la figure de celui qui sera toujours appelé à la suite l'agneau comme immolé, et qui en même temps est référé au nom du lion de Juda. Vous voyez encore l'opposition, l'oxymore, on pourrait presque dire, l'irréconciliable entre le lion de Juda et un agneau comme immolé, qui va se lever, on peut voir le psaume 40 par derrière, et prendre ce livre. Donc, à partir de cela, il va y avoir l'ouverture du sens. Et ces trois septenaires, l'ouverture des sceaux d'abord, l'ouverture des trompettes, l'ouverture, puis ensuite les coupes qui arrivent, l'ouverture, le son des trompettes, et puis les coupes qui vont être déversées, ne sont pas chronologiques. À chaque fois, elles vont retraverser l'histoire, toute l'histoire, mais d'une manière un peu différente. Et justement, ce qui va marquer la différence, c'est la place des croyants à l'intérieur de toute cette saga, enfin de tout ce qui se passe. La première chose qu'on entend au chapitre 6, et je vais reprendre le texte, lorsque l'on voit la figure des chrétiens, alors excusez-moi, je vais retrouver mon texte. Il y a ce cri de désespoir. Jusque à quand? Jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Donc vous voyez que la première place initiale, c'est ce cri de désespoir. Jusque à quand? Et la seule solution qui paraît possible, c'est la vengeance. Que Dieu vienne venger le sang répandu de manière injuste. Comme s'il n'y avait pas d'autre avenir possible que la violence venant contrecarrer la violence et supplanter la violence même de l'Empire. Alors face à ce cri et à cette demande, il va y avoir d'abord, au chapitre 7, l'affirmation de la protection. Ils vont être marqués d'un sceau. Et c'est là où c'est très impressionnant quand on voit le jeu. On est au milieu de l'ouverture des sceaux du livre. Et l'ouverture des sceaux du livre commence par la vision d'un cheval qui part en premier, qui est un cheval blanc. La blancheur est la couleur de l'unification, hein, contrairement à l'hypocrisie, au péché, etc. Et qui sort pour vaincre. C'est tout ce qu'on en sait. C'est une figure qui reste en suspens, mais qui est une figure qu'on va retrouver après, et qui est une figure de victoire. Donc d'emblée, vous avez quand même quelque chose de la victoire qui apparaît. Mais suit immédiatement ce cheval, un cheval couleur rouge, un cheval couleur blême, bref, des catastrophes, et plus que des catastrophes, comment dire, le mot m'échappe, des terreurs qui sont de l'ordre économique, de l'ordre politique, qui se déversent et qui disent la situation en fait, qui disent la situation vécue dans l'Empire, avec toutes ces injustices, toutes ces morts innocentes, tout ce qui vient peser sur la vie quotidienne. Et donc au cœur de tout cela, vous avez tout d'un coup un arrêt, à la fin du sixième saut, où on voit on entend d'abord un grand silence dans le ciel, et puis les chrétiens vont être marqués du sceau même de Dieu. il y a pour eux comme une identification profonde. Dieu lui-même s'est lié à eux. Aussi pauvre soit-il, aussi fragile soit-il, ils sont revêtus de la robe blanche. Donc c'est ça que je disais quand il disait « il y a une protection ». Et puis, les sceaux, le septième sceau va arriver. On ne sait pas ce que c'est, parce que comme les poupées russes, il va immédiatement faire entrer la série des sept trompettes. Et là, on va entrer dans un autre registre où on va voir que finalement, toutes ces douleurs que qui traversent les hommes, toutes ces douleurs sont des signes comme les signes de l'Exode. Ce n'est pas une vengeance de la part de Dieu, mais ce sont des signes qui disent la contradiction dans laquelle vit la société, qui disent les forces de mort à l'œuvre, et qui en même temps essayent de faire ouvrir les yeux. Donc la réponse de Dieu, me semble-t-il, c'est ce que dit l'Apocalypse, n'est pas du côté de la vengeance, ce n'est pas du côté de la violence, mais c'est du côté des signes qui sont donnés, comme au moment de l'Exode, avec Pharaon, pour essayer d'ouvrir les yeux, de faire ouvrir les yeux. Et la fin de ce passage va être terrible. Ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils continuèrent à adorer les démons et les idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Voilà. On retrouve le discours prophétique là, hein, très fortement. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Donc vous voyez déjà là, il y a quelque chose qui aide à transformer le désir de vengeance en non pas donnant un sens à la violence, mais en faisant remarquer que la violence est la conséquence inévitable du refus de conversion, de voir le poids de la vie et de respecter profondément la vérité de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors ensuite, avant les sept trompettes, donc dans une sorte d'entre-deux, tout d'un coup, le voyant va avoir la vision de deux témoins. Et là, on va entendre que ce n'est pas la vengeance, il faut que les chrétiens, que les saints attendent, mais tout d'un coup s'ouvre une place, celle de témoins. De témoins et de prophètes, les deux sont mis ensemble cette fois-ci. Parce que les prophètes dans le christianisme, c'est ceux qui sont témoins en fait du Christ, du Messie. Et ces deux personnes témoins peuvent parler pendant tout un temps, personne ne peut les contrer. Bien sûr, ils finiront par être mis à mort. Et là, si je peux me permettre, ça me fait penser à une parole qui m'avait toujours impressionnée, dite à Don Albert Camara au début de son engagement par rapport aux paysans et aux plus pauvres du Brésil. Don Albert Camara se demandait vraiment s'il allait participer à une manifestation qui risquait de mal tourner. Et à ce moment-là, il parle avec quelqu'un qui effectivement est un apôtre, Jean Gosse, de la non-violence. Et il dit, mais si je descends dans la rue, je risque de me faire tuer. Et Jean Gosse lui répond, ce n'est pas grave, vous aurez parlé avant. Et de fait, du coup, il est sorti avec toute sa... Je lui avais dit, s'il y a un jour où vous devez mettre tous vos atours, c'est aujourd'hui au cœur de la manifestation. Enfin, en tête de la manifestation, mettez tous vos habits d'évêque, enfin voilà. Parler, c'est là l'essentiel. Finalement, la mort n'est pas importante si on a pu passer le flambeau, être témoin et porter la parole. Et vous voyez déjà que du coup, l'Apocalypse vient petit à petit estomper cette peur de la mort, cette peur du non-sens. Il y a une parole à porter. Après, ce qu'elle deviendra ne vous appartient pas, quelque part, hein. On pourrait le dire comme cela. Voilà. Donc Dieu ne venge pas, ne se venge pas. Il appelle à la conversion et en plus, il demande à ceux qui sont là d'être témoins. Et d'ailleurs, ces témoins, avant de se mettre à parler, vous allez avoir exactement ce qui était dans le livre d'Ézéchiel. Le témoin va d'abord manger la parole. Et on retrouve ce que vous avez dans Ézéchiel et ce dont parle l'extrait que je vous ai lu de Théobald, cette parole qui est douce comme du miel, mais amère aux entrailles parce qu'elle vient en conflit avec tout ce qui se passe. Donc, cette place de témoin, et je vais rapidement terminer, pour qu'on puisse parler quand même, et à partir de là, il va y avoir, après les trompettes et les signes qui seront très proches des signes de l'Exode, vous allez avoir les coupes, le temps du jugement. Et au moment de cette coupe, on trouve ce refrain dit quelquefois, c'est le moment d'avoir du discernement. Voilà l'enjeu de l'Apocalypse, nous faire apprendre à regarder, à discerner, je le disais au début, quel est le poids réel des choses. Et alors je vais terminer simplement en prenant avec vous les deux colonnes que j'avais mises sous l'extrait de Christophe Théobald. Vous avez en fait une construction sans cesse en vis-à-vis dans l'Apocalypse. Je vous parlais du cheval blanc qui sort en premier, qui est suivi immédiatement du cheval rouge, feu, noir, blême. Au chapitre 7, vous avez les serviteurs qui sont marqués au front. Vous voyez, ce n'est pas un lieu neutre par le sceau même de Dieu, c'est-à-dire une identité commune. Et de l'autre côté, vous allez avoir comme une sorte de caricature, l'imposition d'une marque sur la main, c'est-à-dire on est obligé d'agir de la même manière, ou sur le front. Et la marque, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, 666. C'est l'accumulation de ce qui est presque parfait. C'est presque 7. Ça vous fait croire que c'est 7. Mais ce n'est pas la perfection. Et vous voyez, l'Apocalypse vient toujours faire jouer cela. On a l'impression que c'est là le pouvoir. On a l'impression que c'est la vérité. Et en fait, à très peu de choses près, ça ne l'est pas. Et on bascule dans le mensonge, dans le sordide, dans la violence et dans la mort. Vous avez donc les deux témoins dont je vous parlais au chapitre 11, qui ont le pouvoir de fermer le ciel, comme Élie, d'autres pouvoirs encore. Et juste après, au chapitre 13, vous allez avoir une bête qui accomplit, elle aussi, de grands prodiges. Vous avez une femme qui accouche, au chapitre 12, comme signe, avec d'ailleurs un dragon qui est posté pour dévorer la vie dès qu'elle sortira. Et en face, vous avez la figure de la grande prostituée qui séduit, mais qui n'enfantera jamais. Donc vous voyez la distinction, Et la manière dont le livre de l'Apocalypse essaye de vous faire voir finalement de quel côté est réellement la vie qui se transmet et qui peut porter le monde. Et puis vous avez l'agneau comme immolé, je vous disais, qui reçoit le livre de la part de celui qui siège sur le trône, et vous avez en vis-à-vis la bête qui monte de la mer, le dragon lui confère sa puissance et son trône. C'est exactement une parodie, hein, on ne peut pas dire autrement. Cette bête qui possède 10 cornes, 7 têtes, 10 diadèmes, et l'une de ses têtes est comme égorgée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc vous voyez un simulacre de mort et de résurrection. Donc l'Apocalypse va faire passer de l'un à l'autre pour petit à petit détacher les chrétiens de cette fascination et les faire revenir à ce qu'ils ont entendu et vu au travers de la révélation de cet homme, Jésus, qu'ils ont reconnu, eux, comme Messie, redonnant toute la vérité du Dieu d'Israël. Donc voilà le travail de l'Apocalypse. Vous lirez le chapitre 18, que je trouve admirable. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle maintenant. Simplement, l'Apocalypse va se terminer par l'évocation de cette ville qui vient d'en haut, et en même temps, dans les fondations sont les patriarches, dans les portes sont les apôtres. Donc là aussi, on voit tout le lien entre l'alliance d'Israël et l'alliance élargie aux païens. On pourrait dire beaucoup de choses sur les chiffres, je le dis quand même au passage, hein. De l'Apocalypse, vous devez connaître aussi les 144 000, d'autant que les témoins de Jéhovah ont vulgarisé ce nombre-là. 144 000, 12 fois 12. Le peuple d'Israël, peut-être, hein, multiplié par cette ouverture aux païens, fois 1000, c'est-à-dire de façon innombrable. Donc, l'Apocalypse termine sur cette ville qui n'a même plus besoin de soleil parce que celui qui siège sur le trône et l'agneau sont en son centre. Une ville qui est mesurée par rapport à l'empire qui est toujours démesuré. Ça aussi, c'est intéressant, sans plein de détails comme cela. Cette ville qui reprend la Genèse était un jardin, maintenant nous sommes dans une ville, mais où l'arbre de vie est là, donnant son fruit de guérison, et où toutes les nations sont invitées à entrer et à prendre part. Et ce qui est étonnant, bon, vous avez toujours dans cette ville, il n'y aura plus de voleurs, de blasphèmes, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre, qui trahit, tout ce qui trahit la vie, ne pourra plus y être. Et la fin de la fin, ce qui est quand même assez admirable, c'est que même cet écrit n'est là que pour invité à la rencontre vive aujourd'hui de celui qui est présent au cœur du monde. Ça se termine ainsi. L'esprit et l'épouse disent bien. Voilà ce qui doit advenir. C'est cette rencontre et portée pour les croyants, cette présence vive de Dieu au cœur de l'histoire, cette présence qui supporte l'avenir du monde. Contrairement aux empires, que ce soit Tyr, que ce soit toutes les villes dans les écrits bibliques, qui ne sont que des ballons de baudruche. Et là, je vous invite vraiment à lire après le chapitre 18. Merci Nicole. C'est vrai, c'est toujours ce mot que je dis aux conférenciers, mais il est vraiment sincère et je n'en trouve pas d'autre. Vraiment, merci beaucoup. Parce que finalement, de tous les conférenciers ou conférencières que nous avons eus, je crois hein, que tu étais la première, parce que c'était ainsi demandé, si hein, les autres avaient un autre rôle et c'était autrement, à nous avoir expliqué des choses inexplicables ou que je trouve vraiment extrêmement difficiles à comprendre. Et je pense que c'est aussi bien pour nos amis chrétiens, par ce symbolisme d'abord. Il y en a partout dans la Bible, c'est vrai. Il y en a partout. Moi, j'avais bien noté tout à l'heure, effectivement, ça m'a fait tic, le sceau sur de protection. Et il y a eu aussi la protection de Dieu passant sur les maisons des Hébreux. Je trouve que souvent, on va retrouver dans des textes chrétiens une construction qui s'est faite aussi avec le passé qui n'est pas passé en fait, qui habite celui qui est inspiré, celui qui écrit. Mais je trouve que c'est un texte remarquable, très très difficile. Et lu au premier degré, ça fait très peur. Ce sont des images très difficiles. Mais comme tu viens nous l'expliquer, ça me semble vraiment beaucoup plus clair. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment à le travailler beaucoup, à le lire, pour se mettre dans une autre position, mais pour revenir effectivement, non pas à ce que nous vivons au premier degré dans nos civilisations, parce que c'est pareil. Je crois que ce qui est dit là dans cette époque, ça peut être aussi pour aujourd'hui. Vraiment, est-ce qu'on a besoin de cela pour revenir nous-mêmes, de ces lectures et d'autres lectures? Alors voilà, moi je pose cette question aussi, et puis j'espère que vous allez en avoir beaucoup à poser à Nicole. Je dirais peut-être juste un mot, c'est que des groupes ont travaillé l'Apocalypse il y a 4 ans, et dans un des groupes en Ardèche, il y avait une femme peintre. Et moi je suis venue que 3 fois dans l'année, les groupes se voyaient indépendamment de ça avec un dossier, et ils ont essayé de sculptiner le livre de l'Apocalypse, et cette femme. Alors que tout le monde disait, ouf, c'est quand même dur, c'est passionnant, mais c'est quand même dur. Cette femme a dit à la fin de l'année, ah, je crois que je vais me mettre à lire les textes bibliques, tellement l'Apocalypse m'a fait du bien. Et en fait, comme elle était peintre, elle s'était laissée porter par toutes les images. Quand on essaye de rationaliser l'Apocalypse, ça devient, excusez-moi, c'est une expression un peu prise de tête. Voilà. Or, c'est un autre langage. Il faut y entrer d'une autre manière. Et ça m'avait beaucoup étonnée de voir cette femme qui disait, ça m'a rassurée, ça me donne envie de rentrer dans les autres textes bibliques, parce qu'elle n'était pas habituée, c'est-à-dire. Est-ce que toi-même, tu nous as pas fait rentrer en nous donnant présence d'évangile de Christophe Théobald, on est totalement dans l'humain, le voir, le sentir, le toucher, les sens, et on ne peut vivre qu'avec nos sens, bien sûr. Alors je vous invite, Jean-Albert.
Le mot conversion a été dit, et je voudrais vraiment m'arrêter sur ce mot. Je pense que le chemin, la voie, se passe par cette conversion. Alors, qu'est-ce que l'on entend par conversion? C'est cette révélation intérieure, ce moment de dévoilement où on a une autre vision, un autre regard, une autre écoute. Et on réalise qu'on est, parce que toute cette allégorie de l'Apocalypse, évidemment, c'est extrêmement présent. Je crois qu'on est confronté à cette situation de siècle en siècle. Il y a un côté très, très récurrent. Donc ce texte, évidemment, est d'une fraîcheur. Il vient du passé, du présent, de l'avenir. Il est atemporel. Et je pense que dans ce changement du regard intérieur, il faudra... c'est un travail personnel, c'est un travail aussi intérieur. L'Apocalypse nous demande un cheminement intime, intérieur, de cette conversion. Ça veut dire quoi, pour être plus précis? Ça veut dire qu'on réalise que l'on a été conditionné, on réalise que l'on a été manipulé, puisque c'est tout le problème, si on prend le contexte historique, c'est l'Empire romain. Mais vous l'avez bien dit, l'Empire avec sa propagande, l'Empire avec son idéologie, l'Empire avec son conditionnement. Et que ce travail de révélation intérieure, c'est un accès, vous ne l'avez pas dit, mais vous me direz votre action, c'est cet accès à cette liberté. Cette liberté donnée par Dieu, cette liberté donnée par l'Alliance, parce que cette conversion va nous permettre de nous dégager de tous ces jeux de manipulation où nous devenons des esclaves. Nous sommes des esclaves attachés à la propagande de tous les empires du monde, de tous les empires terrestres. Et j'ai l'impression que c'est tout l'enjeu de notre liberté. Parce que le vrai chemin de spiritualité intérieure, c'est l'accès à notre liberté. Et on ne peut y arriver que par cette nouvelle conversion, ce nouveau regard, en alliance, évidemment, avec l'agneau. Voilà, j'arrête. Et entre ces mots, conversion, conditionnement permanent, nous sommes tout le temps, on a l'impression, comment dirais-je, de siècle en siècle. Les systèmes, à chaque fois, nous reproposent des enfermements. Et comment, à chaque fois, par la révélation, s'ouvrir, se libérer, se délivrer et retrouver la liberté.
Merci beaucoup d'avoir insisté là-dessus, parce que c'est quelque chose de capital. Je l'ai un tout petit peu dit sur la différence entre l'imposition du sceau sur le front, le sceau, et l'imposition d'une marque sur la main, une marque. Voilà, on voit bien la différence. Donc cette liberté profonde, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est sans cesse à remettre sur le métier. Et au fond, tous les écrits bibliques essayent de nous faire sortir de l'idolâtrie, vous l'avez dit, de la fascination. D'une manière ou d'une autre, hein. C'est le projet, Dieu sait, on peut le dire, que nous avons du mal. Alors, la seule chose que j'aimerais dire, c'est cette conversion, elle est dès le début d'ailleurs, parce que celui qui va avoir les visions entend une voix qui est derrière lui. Rien que ça, c'est intéressant. Un jour, je l'ai lu avec des psychanalystes qui... Ils disaient, mais c'est comme sur le divan. c'est une voix qui oblige à aller ailleurs, à se retourner, oui, et à regarder d'un peu plus près. Mais ce n'est pas que individuel. Et c'est juste là, j'aimerais en profiter. Tous ces moments liturgiques dans l'Apocalypse ne sont pas neutres, me semble-t-il. Parce qu'il y a donc deux lieux, le ciel et la terre, et dans le ciel, vous avez toujours des liturgies, et dans la terre, sur la terre, un sacré combat. Donc en fait, le ciel et la terre, c'est le même lieu, hein, mais vu à partir d'un lieu différent. Enfin, on regarde différemment. Et, me semble-t-il, l'Apocalypse vient donner le sens aussi de toutes nos liturgies. Ce ne sont pas des moments où on s'échappe ailleurs. Mais c'est le lieu où on apprend cette liberté. normalement. Et là, on pourrait énormément travailler nos liturgies, nos rencontres culturelles, comme des lieux profondément insérés dans notre histoire et qui nous apprend ensemble cette liberté profonde. Sachez.
Bonjour, je voulais revenir sur un détail qui m'a frappé, c'est les sept coupes. Parce que je trouve qu'elles ressemblent beaucoup aux quatre coupes qu'on boit à Pessah pendant la fête de Pâques. Et il y a une symbolique qui est vraiment assez proche, on parle de discernement tout à l'heure. Et dans la fête de Pâques, on parle de nuit différente. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres? Donc on cherche à voir à discerner justement qu'est-ce qui est différent par rapport à avant. Et je me suis dit, il y a peut-être un symbolique un peu voisin. Tout à l'heure, on parlait de libération, de l'esclavage. On retrouve cette même symbolique dans cette fête de Pâques qui vient chez nous. Voilà.
Merci, Patrick. Merci beaucoup. Et je crois que ça serait intéressant qu'on lise ensemble ce livre. Parce que la première grande liturgie, alors là c'est très très clair, elle s'appuie sur la liturgie synagogale. Donc, et puis c'est vrai que l'ensemble du livre, c'est en fait un commentaire de la Bible, hébraïque j'entends, l'Apocalypse, quelque part, à la lumière bien sûr de Jésus-Christ, de Jésus considéré comme le Messie par les chrétiens. De fait, vraiment, tout l'Exode est le substrat de l'Apocalypse. Donc merci de faire ce rapprochement-là. Autre question.
Simplement, comment le situer par rapport aux apocalypses juives? Il y a une évolution, laquelle, je ne sais pas.
Je vais regretter de ne pas avoir Yeshaya d'Alsace à côté de moi. Parce que je suis pas du tout spécialiste des apocalypses juives. Une des grandes différences, je crois que je vous le disais un peu, c'est que l'Apocalypse de Jean, tout en essayant de dire ce qui vient, c'est-à-dire cette Jérusalem nouvelle qui vient vers l'histoire du monde, malgré tout, l'Apocalypse est avant tout révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers quelque chose qui s'est déjà passé. Je crois que là, ça marque quelque chose d'assez fondamental dans notre différence entre juifs et chrétiens. Cette conviction, je vous disais, révélation de Jésus-Christ, cette conviction qu'en Jésus-Christ, la plénitude, l'accomplissement de l'histoire est arrivé. Mais qu'elle est encore à venir. Mais vous voyez l'enjeu qu'il y a, la différence du coup qu'il y a. C'est pour ça que témoin et prophète, je vous le disais un peu rapidement, dans le chapitre 10, ça va être des équivalents. Les prophètes sont témoins de quelque chose qui s'est passé une fois pour toutes. On l'entendra chez Paul. Il y a le fait d'avoir à redire et à revivre les événements. C'est un peu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la situation des Hébreux comme esclaves, sous d'autres formes d'esclavage que ces personnes dont tu parles, mais qui sont esclaves effectivement du système, nous-mêmes nous sommes esclaves du système. de nos systèmes. Et la difficulté de nous vivre libres, il y a besoin sans cesse cette répétition. Mais le questionnement est quand même du fait que pour le monde chrétien, il y a eu, ou pour le monde païen, il y a eu l'ouverture à cela, à une première révélation, celle de Dieu. Il y a cette nécessité de répéter tout le temps, mais jusqu'où on a besoin de répéter? Et il y a le sentiment là aujourd'hui qu'il y a encore et encore besoin de répéter. Je m'interroge sur l'articulation qu'on peut faire entre ce « vient » qui est très présent là dans l'Apocalypse et le « va » biblique. Voilà, ce mouvement du « va » que moi j'aime beaucoup. Alors j'ai été très interpellée par ce « vient » très lourd finalement hein, dans ce livre. Comment on peut articuler et surtout dans ce livre de la révélation du « vient », on a l'impression d'un retour. Et le message biblique va plutôt vers le va, justement. Enfin, voilà, c'est pas contradictoire, mais je m'interroge là-dessus. Alors, tu me diras si j'ai bien compris. D'abord, j'aimerais dire jamais, jamais l'Apocalypse ne va parler de retour. Parler de retour du Christ, par exemple, c'est complètement étranger au Nouveau Testament. C'est toujours la venue du Christ. Donc c'est pas un retour de la présence du Christ, c'est une nouvelle venue, quelque part. Alors, l'articulation entre ce « vient » et ce « va », moi, je l'entends beaucoup dans le premier chapitre. Hein, Dieu la donna pour montrer la révélation à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver, ce qui vient. Il me semble que c'est justement parce que quelque chose arrive qu'on se met debout. Et qu'on quitte, et qu'on bouge. Et qu'on va. Il me semble que c'est là l'articulation, dans cette certitude que ce qui vient, ce qui est en train de venir pour l'avenir de notre monde, déjà aujourd'hui, a une réalité. Et que donc, j'ai à me mettre debout. Quelque part, je pense qu'Abraham, il se met debout parce que quelqu'un lui parle, parce qu'il y a une parole qui... Et effectivement, dans cette articulation, mais ça serait à creuser, j'aimerais bien que tu creuses, parce que j'imagine que tu as des choses à dire, en fait. Mais, en tout cas, simplement, je crois qu'une des bonnes nouvelles de l'Apocalypse est une... Pourquoi c'est un écrit de résistance? C'est parce que justement, quelque chose advient qui toujours nous échappe. Et que Dieu est celui fondamentalement qui advient, et ça nous échappe toujours. Et si on réfléchit un peu à ce qui nous met en route, c'est bien parce qu'il y a des inattendus, des choses qui viennent alors qu'on ne s'y attendait pas, qu'on est mis en marche. Et qu'on ose et qu'on risque, nous aussi, des paroles ou des gestes inattendus, ou des pas inattendus. Je me permets encore, je refais un lien dans le Ler Lecha, va vers toi. C'est vraiment la première, une des premières paroles que Dieu ait dites à Abraham. Et ce va vers toi, ça veut dire quoi? C'est vraiment apprendre à se connaître. Apprendre à développer tout le potentiel en soi, mais en sachant très bien que l'on va être influencé par les autres, que l'environnement va nous perturber, même plus que cela, n'est-ce pas, va nous détruire, ou en tout cas, même si on a pu parler avant, Mais il est sûr que des choses vont faire que l'on arrivera avec beaucoup de mal à aller vers nous-mêmes. Je pense même que la toute petite lecture que j'ai faite tout à l'heure, sans savoir quelle est notre prière, quelle est notre âme, est-ce que nous nous connaissons ? Moi, je ne suis pas sûre qu'on se connaisse. Même quand on s'étudie, même quand on réfléchit, même quand on trouve des lectures qui nous parlent, où on se sent concerné. J'ai le sentiment que, comme tu le disais, et comme c'est écrit encore une fois dans cette recherche des cinq sens, c'est pour trouver, chercher en soi cet accès à notre liberté. Donc, il y a le mouvement du va-et-vient, c'est le mouvement du va-et-vient, le lerlera va vers toi, mais aussi laisse venir, mais avec discernement. Et ça, c'est vraiment très très important. On a, nous, dans notre prière, et je crois tous les matins, n'est-ce pas, messieurs, le coq qui discerne. Alors pourquoi on parle du coq dans une prière juive ? Pourquoi on parle du coq ? Parce qu'il sait discerner le jour de la nuit, en principe. Hein. Maintenant, il y a des coqs de temps en temps, ils ne sont pas très au clair. Mais si ça nous a été dit dans ces textes-là, je crois que le discernement, c'est ce qu'il y a de plus important, mais encore faut-il pour ça arriver à se connaître, à aller vers soi, aller aussi vers les autres, et faire cet élan d'aller et venu. Et finalement, je rajouterai dans ce que tu dis, la grande révélation, c'est que celui qui vient, mais ça a été pareil au moment de l'exil, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'imaginaire de nos puissances, enfin dans nos représentations de puissance, de je ne sais pas trop quoi, mais c'est justement celui qui se fait le plus proche, hein, Esaïe, le racheteur, Israël, ton racheteur, le saint, ton racheteur. Incroyable de mettre ces deux mots ensemble. Et je crois que dans la révélation chrétienne, il y a la même chose avec cette histoire d'agneau. Et du coup, celui qui vient à notre rencontre, ce n'est pas quelqu'un qui nous sollicite sur nos imaginaires, nos fantasmes, mais c'est quelqu'un qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. C'est pour ça que ce que tu dis d'Abraham, l'Erlera, va vers toi. Dieu, profondément dans sa venue, nous permet, oui, vers toi et pour toi, nous permet d'exister avec notre fragilité. Et on est en plein dans la Genèse. C'est-à-dire, finalement, ce qui nous met dans le mensonge, c'est qu'on a honte de notre fragilité. On a honte de la fragilité, de nos fragilités communautaires, de nos fragilités personnelles, etc. Et la révélation, c'est que Dieu n'a pas honte. Et que nous sommes appelés tels que... C'est pour ça que je parlais du psaume 40, pour moi, c'est un psaume magnifique. Hein. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Voici, je viens avec le livre écrit pour moi, pour faire ta volonté. Je crois qu'il y a là quelque chose d'une advenue qui nous permet effectivement d'aller tel que nous sommes, et non pas dans l'imaginaire, ce qui devient terrifiant et ce que nos systèmes mettent en valeur.
Est-ce que ce travail de dévoilement, c'est pas une façon de se désaliéner? Parce que tout le système, c'est en utilisant l'imaginaire, c'est éveiller en nous, réveiller des désirs de puissance, de pouvoir, d'avoir. Et on passe par l'imaginaire. Oui. Et finalement, l'autre vision, l'autre regard, c'est un travail en profondeur de désaliénation par rapport à tous ces systèmes de séduction, de propagande.
Oui, et en retravaillant pour ce soir, j'étais très, très intéressée d'un commentaire que j'avais. Voilà, j'étais passée dessus un peu vite, qui montrait justement à quel point, dans l'Apocalypse, du côté de l'agneau immolé, des saints, etc., enfin de l'agneau comme immolé, des saints, les choses sont toujours mesurées, sont toujours. Et de l'autre côté, on est dans l'illimité. Et là, il y a quelque chose de la désaliénation. Voilà, qui nous permet d'être chacun à notre place avec nos limites et de découvrir la beauté de la vie dans sa fragilité. Et la force de sa vie, de la vie dans la fragilité.
Cela concerne plutôt le contexte et il y a des références précises quant aux églises qui sont mentionnées au début. L'auteur parle de Patmos. Je veux dire, est-ce que du point de vue de la connaissance des textes actuels, est-ce qu'on a, on a des connaissances plus précises ou bien est-ce qu'on est toujours dans un certain flou? Et deuxièmement, en rapport avec cela, je crois que vous avez évité de parler d'utiliser l'expression de l'évangile de Jean. Alors, je voulais peut-être que vous disiez, en fait, profondément, quelque chose.
Le lien entre l'évangile de Jean et.
Oui, il me semble que communément on dit l'évangile de Jean chez les chrétiens. Hein? Non, pas l'évangile, bien sûr. Pas pour l'évangile, excusez-moi, c'est un lapsus. Enfin, oui, je me suis. Je veux dire, on parle, je crois, de l'apocalypse de Jean. Vous n'avez pas pris l'expression.
Du coup, j'ai oublié la première question, pardon.
Les circonstances historiques, comme le contexte de l'époque, disons.
Oui, et les villes. On a été étonnés, d'ailleurs, que c'est pas forcément, ce ne sont pas forcément les plus grandes villes de l'Asie. Et puis, c'est étonnant, il n'y a ni Rome, ni Jérusalem, qui sont quand même les deux centres à l'époque où on aurait pu prendre Alexandrie aussi, qui sont. Donc, à la fois, il y a un choix de villes qui ne sont pas forcément des villes phares. Mais en même temps, de fait, alors là, si vous lisez des commentaires, il y a des liens très précis entre la situation des villes concernées et le message qui est donné. Voilà, entre autres, les dieux ou déesses patrons des villes, et puis l'idolâtrie qui existe dans ces villes. Donc ça, il faut lire des commentaires. C'est vrai que je n'ai pas trop insisté sur Apocalypse de Jean. Je l'ai dit quelquefois, mais de manière très légère, parce qu'il y a aussi tout un débat. C'est pour ça que j'étais étonnée que vous disiez l'évangile de Jean, tout un débat. Est-ce que c'est le même, vraisemblablement, c'est pas le même auteur? Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un courant dans le Nouveau Testament, un courant qui est du côté de. Qu'est-ce qu'il faut dire, la mystique, mais au bon sens du terme? C'est-à-dire d'un approfondissement. De la révélation de Jésus-Christ dans le sens de la maturation, prendre le temps de relire justement toute l'écriture. C'est impressionnant. Si vous regardez, si vous prenez un Nouveau Testament, en général c'est dans les marges que vous avez ou en notes, mais essayez de prendre un Nouveau Testament où les références scripturaires sont en marge. Vous verrez que l'Apocalypse est noire, les marges de l'Apocalypse sont noires. Donc on sent bien que c'est un courant qui a pris le temps de énormément relire toute l'écriture biblique, hébraïque, à la lumière de ce qu'ils ont vu au moment de la vie de Jésus-Christ. Voilà, mais sinon c'est vrai que dans le texte même, Jean est nommé une seule fois, ou deux fois, dans le premier chapitre uniquement. Après, le nom de l'auteur n'est plus important. Donc c'est pour ça que je me suis plus attachée à ce que fait entendre le texte, qui va au-delà du personnage même qui écrit.
Oui, Nicole, je voudrais revenir sur le sens. Tu l'as abordé en parlant du livre qui était fermé et qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et c'est un problème actuel. J'entendais des gens ce matin dire à propos de l'attentat de Boston, mais ça n'a pas de sens. Ce sont des innocents qu'on a tués, blessés gravement. Et c'est pour ça que cet apocalypse est typiquement chrétienne, mais je voudrais avoir ton avis, parce que toute une partie de la Bible, il y a des apocalypses. Mais la lecture qu'en faisaient les maîtres, c'était si on est puni, c'est qu'on n'a pas été très bien, et on va se corriger, et Dieu ne nous punira plus. L'Apocalypse, c'est pas ça. C'est une lecture très chrétienne. Dieu lui-même a accepté que son témoin, son fils, qui était injuste, souffre d'une manière ignominieuse, condamné, crucifié parmi les bandits. Et nous, on se réclame de ce personnage. Donc, il faut qu'on accepte qu'il y ait toute une partie de sens qui nous échappe en faisant confiance et en disant il y a quand même du sens là où il paraît ne pas y en avoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sens que nous on trouve ?
Je ne suis pas sûre qu'on puisse réduire les apocalypses juives à s'il y a de la violence, c'est que nous avons trahi. Personnellement, alors je crois que j'ai eu l'occasion déjà de le dire quand j'étais ici, je pense profondément que le moment de l'exil est le moment de révélation d'un Dieu qui, dans la gloire, n'est pas dans sa magnificence, etc. La vision d'Ésaïe au début, ou même le pan du manteau de Dieu remplit déjà le sature déjà le temple. Donc Dieu est bien au-delà de tout cela. Mais où Dieu, ce qui fait sa sainteté, sa particularité, c'est qu'il est celui qui va accepter de passer, pour moi, alors je vous livre ma lecture, c'est déjà la crucifixion avant l'heure, de passer par l'anéantissement. C'est-à-dire que le Dieu d'Israël va accepter au moment de l'Église de passer aux yeux de toutes les autres nations comme un Dieu faible, qui n'a pas pu protéger son peuple, comme un Dieu lui-même qui passe par une sorte de néant, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien, puisque le Dieu des Babyloniens a eu raison de lui. Et Dieu n'a pas craint cela, parce que ce qui fait sa particularité, c'est cette façon-là dont je le lirai, c'est l'Alliance, c'est son amour d'Israël. Et pour rien au monde, il se serait dissocié d'Israël, et du coup, il part lui-même en exil, si je peux m'exprimer ainsi, mais les commentateurs l'ont dit, je suis compris. Donc, je ne suis pas sûre, je n'ai pas travaillé avec autant de précision l'Apocalypse de Daniel, Zacharie, etc. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas ça dans les apocalypses juives. Je sais pas si... Oui, je suis pas sûre que ce soit... Je crois que la révélation du Dieu biblique est justement la révélation d'un Dieu qui accompagne. Jusque dans les torsions les plus profondes. Et finalement, pour nous chrétiens, la crucifixion, c'est ça, c'est Dieu qui vient au cœur même de notre péché le plus sordide, quoi. C'est-à-dire notre désir de rejeter Dieu. que l'histoire de Jonas, quand il a été avalé par la baleine, c'est pas un petit peu le reflet de tout ça, justement? Moi, je vois un peu, donc Dieu s'est imposé un petit peu à lui comme événement qui vient, en lui demandant d'intervenir auprès de lui, qui était dans la ville, justement, qui était où il y avait toute cette violence. Et finalement, donc, il a voulu échapper et il a fini par être avalé par la baleine, et donc c'est une sorte de crucifixion quelque part. Et pour renaître dans une nouvelle ère où il a réfléchi, où il a fait un peu son jugement et son couple, comme on disait tout à l'heure, pour revenir vers accepter cette situation et renaître au travers de cette réflexion. Je vous demandais d'en dire un peu plus parce que en fait, vous avez commenté un passage de l'Évangile. Parce que dans les Évangiles, il y a à un moment donné cette réponse de Jésus, vous n'aurez d'autre signe que le signe de Jonas. À ceux qui demandent sans cesse des signes. Et je crois que ce que vous avez dit, enfin moi ça serait à prolonger, hein, mais ça va dans ce sens-là tout à fait, oui. Oui. Il y a quelque chose dans l'histoire de Jonas, ne fût-ce que, c'est quand même gonflé, enfin excusez-moi, c'est pas théologique de dire gonflé, mais le fait d'avoir un livre où Dieu demande à son prophète d'aller dans la ville, mais c'est la plus monstrueuse. Hein. Ninive, c'est ceux qui ont anéanti le royaume du Nord. C'est quand vous voyez les bas-reliefs, la propagande de la ville de Ninive, c'était alors pour le coup sur la violence. C'est-à-dire que les bas-reliefs, on voit sans cesse le Nimrod en train de traîner ses ennemis, les empaler, enfin voilà, tout y passe. Et que Dieu ait envie de parler à cette ville-là, dit quelque chose de ce Dieu dont la gloire n'est pas d'être comme les dieux païens, hein, que les hommes le magnifient, et voilà, mais d'être celui qui vient travailler au corps l'homme pour qu'il se tourne vers la vie. Enfin, voilà comment je rebondis, mais il faudrait aller plus loin.
Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais en venant ici ce soir vous écouter. Ce dont je suis sûr, c'est que après vous avoir écouté, j'ai le même sentiment, la même impression que Patrick, et je me dis que finalement l'Apocalypse, ben, c'est je suis à la maison, quoi, ça vire à un choix. Et je me dis, enfin, et là-dessus, je crois que Armand a des classiques sur d'autres points aussi, mais sur ce point-là en particulier, il a raison. Je crois que nous les Juifs, on devrait lire beaucoup plus le Nouveau Testament et le lire comme un mirage, c'est assez fascinant de voir les allers-retours qu'on pourrait faire entre nos traditions, très éclairant. Alors, de ce point de vue-là, la première question que j'aimerais poser, c'est sur une expression que vous avez utilisée plusieurs fois, à laquelle je ne comprends absolument rien, qui est la « nous comme immolé ». Alors, ça m'intéresse parce que ça a des résonances hébraïques, hein, ce « comme immolé ». Qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi pas « nous immolé », mais pourquoi « comme immolé » bon. Et puis la deuxième question, c'est le littéraire en moi qui se pose la question et qui voudrait que vous expliquiez peut-être. Vous avez dit que l'Apocalypse commençait par une sorte de multiplication, de profusion de différents styles littéraires, de différents genres, quelle est la fonction alors, de cette multiplication? Est-ce que c'est pour s'opposer à la parole de propagande qui est une, qui est monolithique, enfin, quelle est la fonction finalement?
Ben, je crois que vous avez bien entendu l'agneau comme immolé. une des fonctions, mais il y en a sans doute beaucoup, hein, c'est que justement l'image n'est pas la réalité. Et ça c'est génial dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse lui-même vous fait prendre distance avec l'image qu'il vous fait voir pour que vous entendiez. Alors là aussi, les paroles que tu as vues, ou, enfin on va avoir tout ça, mais on l'a aussi dans les textes prophétiques. C'est-à-dire que justement ce ne sont pas des images qui fascinent, mais ce sont des images qui font entendre, et qui, c'est la question de la liberté que vous posiez, c'est-à-dire c'est l'interprétation. Si vous aviez l'agneau immolé, vous savez ce que c'est. L'agneau comme immolé, hop, ça vous oblige à interpréter. Et le lecteur de l'Apocalypse est tout le temps obligé d'interpréter. Je pense que c'est une des raisons, mais il y en a beaucoup, alors ça m'intéresse parce que j'aurais pas pensé à celle que vous avez dite, mais qui me paraît intéressante. Pourquoi différents entrer comme ça dans une multiplicité de styles? Alors, par rapport à la parole monolithique, vous avez raison, ça a tout à fait du sens. Moi, j'aurais répondu spontanément, ben justement, c'est pour perdre le lecteur et le faire écouter, non pas de manière statique, mais de manière souple. Je ne sais pas comment dire. Attention, tu vas entrer dans un texte qui va te faire bouger et n'essaye pas de le capter ou de le figer là ou là. C'est une parole vive. Et pour moi, c'est intéressant, je ne vous ai pas lu totalement la fin, hein, mais la fin, c'est je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui atteste ceci dit oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus. Donc ça c'était la fin que je vous avais dit. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de cet écrit. On peut se dire flûte alors, c'est une manière de sacraliser ce livre. Il ne faut pas en toucher une virgule. Mais vous pouvez aussi l'entendre comme bon, l'écrit est clos. Mais il faut aller au-delà de l'écrit, dans cette rencontre. Donc sans cesse, l'Apocalypse va faire ce travail. C'est une parole à entendre, à interpréter, à voir, mais qui nous met debout, si je peux. C'est-à-dire qui m'engage à aller. Va et viens. C'est surtout pas une parole ou une vision qui va me dicter ce que je dois être. C'est quelque chose qui va toucher à ce qui est la vie, ce qui fait écho au vivant en moi et qui du coup va susciter ma liberté et ma créativité. Il y a l'Exode qui est par derrière, il y a aussi énormément le Cantique des Cantiques. Ça serait très intéressant de voir. C'est aussi un très grand commentaire du Cantique des Cantiques. Bon, me semble-t-il. En fait, c'est ce même travail que toi tu fais particulièrement, Gérard, mais qui est de la recherche dans les écrits, toi aussi, et puis tous nos amis juifs qui étudient la Torah et le Talmud, c'est sans cesse remettre les paroles dans une recherche d'approfondir et de ne jamais s'arrêter, en fait. Ne jamais enfermer, ne jamais fermer le livre, ou en tout cas l'ouvrir sans cesse, l'image du livre fermé, mais avec, tu disais, il est fermé, mais il est plein, il est écrit de tous les côtés, dedans et dehors, donc ça tue, donc c'est à nous de lire ces lettres, de lire ces images, et d'essayer, là, par l'imaginaire aussi, de pouvoir trouver en chacun de nous. Mais je pense que c'est bien d'avoir un maître, parce que je pense que c'est bien que tu sois là ce soir. Parce que franchement, tu nous as éclairés, tu nous as aidés. Dans la... Tu as eu des maîtres aussi, bien sûr. C'est ça qui est bien. Bien sûr, c'est très important. Donc... Désolée, mais je pense plutôt à la présence de l'Esprit Saint à travers Nicole. Et je pense à travers chacun de vous. Heureusement qu'il y a la présence de l'Esprit Saint. Mais je peux vous dire que l'Apocalypse, moi, la première fois que je suis rentrée dedans, j'étais dans un camp de jeunes. Avec, c'est un camp où il y avait pas mal d'évangéliques aussi, et quelqu'un qui a ouvert, un jeune qui a ouvert le livre en disant, voyons, alors, qu'est-ce qui va arriver ces prochains temps? Et, autre souvenir sur l'Apocalypse, à RCF, du moment, enfin, à l'époque où il y avait des soirées bibliques sur des écrits, où on était plusieurs à intervenir, on a eu une soirée avec Philippe Abadi où le thème était l'Apocalypse. On n'a pas pu en placer une. Les auditeurs pouvaient appeler. Hein. Sans cesse, il y avait des appels au téléphone pour dire « Alors, moi, j'ai compris, je sais, il va arriver ceci, il va... » Pour faire entendre que l'Apocalypse était autre chose, alors, c'était pour dire que... Forcément, la première lecture de l'Apocalypse, elle est terrifiante. Elle est terrifiante parce qu'on n'y comprend rien. Et que de fait, vous avez tellement de catastrophes, mais c'est exactement cette fascination devant l'injustice, la violence. Je vous disais même économique, à un moment, le cheval blême, je crois, je ne sais plus, c'est le prix du blé. On parle du prix du blé qui devient... insupportable. Enfin, c'est très étonnant quand on lit les choses. On est dans cette même peur, et l'Apocalypse nous oblige à nous y confronter, que ce que nous avons quand nous nous arrêtons un petit peu sur ce que tu disais, le sens de notre monde. L'impression qu'on est géré par des forces qui échappent à tout le monde, quasiment, que plus personne ne met de règles. Enfin, je dis « ne met de règles », s'il y en a eu à une époque, je ne sais pas, peut-être pas rêver. Mais l'impression que tout échappe. Et vraiment, la première lecture de l'Apocalypse, c'est ça. C'est comme ce que je vous disais, hein, la pellicule photo avant la révélation. C'est-à-dire qu'on est submergé par le non-sens et par la violence. Parce que de fait, c'est violent. Et il n'y a que petit à petit, c'est pas que le Saint-Esprit, c'est se battre avec un texte. C'est entendre derrière cette première approche, alors le Saint-Esprit aime, hein, derrière cette première approche où on ne voit que la violence, découvrir les pauses, les hymnes, ces moments de paix, ces moments de silence, c'est extraordinaire, cette demi-heure de silence. Ça vous fait du bien, même à vous, lecteurs. Tout d'un coup, une pause. Et entendre autre chose. C'est ce que disait Théobald. C'est ce que dit Théobald. Mais je crois que c'est vrai de tout texte biblique. Parce que tout texte biblique, notre première réaction, c'est de l'interpréter à notre sauce. Alors vous avez des textes où ça marche pas trop mal. L'évangile, je peux le réécrire tel que j'ai envie de le réécrire. Mais si vous êtes sérieux, vous allez lire tranquillement, et à chaque fois, moi c'est pas possible, quand je lis un texte, à chaque fois je tombe sur des détails, mais alors ça, la lecture juive m'y a aidé aussi, où je me dis, mais c'est pas cohérent cette histoire. Ça va pas avec la façon dont moi je m'étais reconstruit le texte. Et ça vous emmène ailleurs, mais ça c'est un travail. Le travail, des fois je dis ça, on a l'habitude de lire en TGV. Excusez-moi si vous l'avez déjà entendu. Faites Lyon-Paris en TGV. Ou Annecy-Paris en TGV. Vous aurez plein de choses à dire. Effectivement, on passe ici d'une période de montagne à la vallée du Rhône, vous passez ensuite dans le Morvan, ensuite les grandes plaines autour de Paris. Bref, vous pouvez faire des commentaires. Faites Annecy-Paris en vélo. Voilà. Et bien, je crois que dans la lecture des textes bibliques, c'est ça. On a l'habitude de tracer. Prenons le temps d'y retourner, de ne pas lire seul. Alors ça, c'est une des choses que je disais dans mes propos. Je lis ma lecture juive, normalement, on ne lit pas des textes seuls. On lit toujours à plusieurs. Et ce que j'ai bien voulu apprendre, parce que ça m'arrangeait, mais je crois que c'est vrai quand même, pour tout juif, si on est deux et qu'on n'a pas trouvé trois interprétations du texte, c'est qu'on a mal lu. On est un peu à se libérer, nous, chrétiens, par rapport à la lecture de nos textes où on cherche le sens, enfin, excusez-moi, je me bâche un peu, le sens unique du texte. Nous, un texte, c'est une rencontre vivante, enfin, on le voit bien, au bout du compte. Et il y a un éclat de lire aux éclats, hein, ou à Donc ça, je crois qu'on a vraiment à le retrouver. Et l'Apocalypse fait pas exception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement le lire en disant « soit je le comprends, soit je ne le comprends pas ». On est obligé de se battre avec ce texte, d'y revenir, d'entendre, de tout le coup entendre derrière les bruits, les rumeurs, reprenez le texte de Théobald. Je trouve qu'il dit très bien les choses. Parce qu'effectivement, on entend au chapitre 3 la voix de celui qui est à l'extérieur et qui frappe. Alors que l'Église est persuadée qu'il est là au milieu d'elle. Et que tout d'un coup, on comprend qu'il est dehors et il essaye d'entrer. Et il propose à celui qui ouvrira, je mangerai avec lui, etc. Donc ça, c'est un vrai travail avec les textes pour sortir de notre manière, c'est l'idolâtrie, la façon dont je m'imagine Dieu, passer de ça à l'écoute de ce qu'il est au travers des traces que nous laissent les textes. Il est 10h05, soit on continue, soit j'avais presque envie quand même qu'on termine par la lecture du chapitre 18. Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
Moi, je pense que c'est toi qui connais la roue à faire après. De toute façon, ce que tu venais de dire, c'était tellement bon, j'ai pensé qu'on pouvait s'arrêter là, à moins que je voulais. Vous avez dit, il y avait d'autres, mais tu as raison, fais de nous.
Et peut-être que vous aurez des réactions après, hein. Je ne veux pas clore non plus complètement. Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande !» Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux, car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'entendis une autre voix qui, du ciel, disait « Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a mêlé ses vins, mêlez-en pour elle le double. Autant elle s'est conclue dans la gloire et le luxe, autant rendez-lui de tourments et de deuil. Puisqu'elle dit en son cœur, je trône en reine et ne suis point veuve, jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela viendront sur elle en un seul jour les fléaux qui lui sont destinés. Mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Alors ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui ont partagé sa prostitution et son luxe, quand ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment, et ils diront « Malheur, malheur, ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffi d'une heure pour que tu sois jugée. » Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, cannelle et amome, parfum, myrrhe et encens, le vin et l'huile, la fleur de farine et le blé, les bœufs et les brebis, les chevaux et les chars, les esclaves et les captifs. Le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Jamais plus tu ne le retrouveras. Les marchands qu'elle avait enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment. Dans les pleurs et le deuil, ils diront « Malheur, malheur, la grande cité vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles, il a suffi d'une heure pour dévaster tant de richesses. » Et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent dans les parages, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle cité était comparable à la grande cité? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, poussaient des cris de larmes et de deuil en disant « Malheur, malheur, la grande cité dont l'opulence a enrichi tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer, il a suffi d'une heure pour qu'elle soit dévastée. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. » Et vous aussi, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu, en la jugeant, vous a fait justice. Alors un ange puissant saisit une pierre, comme une lourde meule, et la précipita dans la mer en disant, « Avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande cité. On ne la retrouvera plus. » Et le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, on ne l'entendra plus chez toi. Aucun artisan d'aucun art ne se trouvera plus chez toi. Et le bruit de la meule, on ne l'entendra plus chez toi. La lumière de la lampe ne luira plus chez toi. La voix du jeune époux et de sa compagne, on ne l'entendra plus chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que tes sortilèges ont séduit toutes les nations, et que chez toi, on a trouvé le sang des prophètes, des saints, et de ceux qui ont été immolés sur la terre. Peut-être juste quelques mots, mais vous l'avez entendu. Hein. Le contraste impressionnant entre ce que voyaient les marchands, les rois de cette ville, et la plainte de la foule. Chez toi, on n'entendra plus, on ne verra plus les artisans, les animaux. En fait, on l'entendait déjà, on ne l'entend plus. Ils sont écrasés par le luxe, la richesse, le pouvoir. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre, mais je trouve magnifique. Si, je dirais juste, pardon, quand même un petit mot, c'est comme le com, l'agneau com immolé. Vous remarquerez que Babylone, c'est pas... ça désigne au-delà d'une ville, puisque Babylone n'existe plus à cette époque-là, au-delà d'une ville précise, ça désigne une manière d'être. Donc la violence ne s'exerce pas contre des gens, mais contre une manière d'être. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup. C'est un formidable travail. Alors, nous te souhaitons un bon retour, d'être bien prudente sur la route. Alors, de vous dire que la conférence a été enregistrée, et comme toujours, mais pas tout de suite,